Sainteté. Alors, je vous avoue que la sainteté, c'est un mot un peu compliqué dans mon vocabulaire. Même si Dieu nous appelle au travers donc de sa parole, mais surtout au travers de Christ, à ce que nous puissions parvenir à la sainteté. Alors, je vous propose donc à partir de ce soir que nous puissions donc étudier le livre, enfin le livre, plutôt l'épître d'Éphésiens. Voilà, j'ai trouvé que l'épître d'Éphésiens se portait bien. Il n'y a que 6 chapitres, donc ce soir on va essayer d'introduire ce livre, cette épître. Et voilà, j'ai prévu normalement le chapitre 1, mais je vais voir si c'est pas trop long. Peut-être je le ferai en 2 fois et la prochaine fois, donc mardi prochain, je continuerai, je verrai là en fonction du temps. Et ce que je vous propose donc, c'est qu'à chaque rencontre, nous puissions donc aborder à chaque fois un chapitre. Alors pourquoi aborder donc l'épître aux Éphésiens? Eh bien, parce que quand vous regardez l'épître, il y a 6 chapitres et en fait, vous pouvez scinder cette épître en 2. Les 3 premiers forment une partie et ça va plus faire appel à cette notion d'être, c'est-à-dire être en Christ. Et les 3 autres chapitres, donc les 3 derniers, pourraient donc être une deuxième partie où ça va être plutôt faire. Faire comme Christ ou faire en tant que enfant de Dieu, en tant que revêtu de Christ en tout cas. Voilà, donc, alors le titre que j'ai donné, moi, à mon partage ce soir, donc c'est l'épître aux Éphésiens, c'est la sainteté. Et au travers de cette épître, on peut voir que c'est une vocation donc de tout chrétien. Alors ici, il s'agit donc d'une épître qui a été écrite par Paul. Et Paul, en fait, au moment où il écrit cette épître, cette lettre, il est en prison. Il est en prison à Rome et en fait, il va écrire 3 autres aussi épîtres. On pense qu'il les a écrites aussi à ce moment-là. L'épître donc aux Philippiens, l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. Donc, il y en a 4. Et celle-ci, donc l'épître aux Éphésiens, fait donc partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité, parce que Paul les a rédigées quand il était en prison à Rome. Alors, elle a été écrite, il semblerait, entre 60 et 62 après Jésus-Christ. Les destinataires, comme son nom l'indique, sont donc les églises d'Éphèse, parce qu'à Éphèse, il n'y avait pas qu'une seule église, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs chrétiens qui se réunissaient, et en fait, donc, elle est adressée à tout cela. Le but de cette épître, Paul voulait eh bien tout simplement que cette lettre soit lue par les chrétiens d'Éphèse, mais aussi par toutes les églises qui se trouvaient dans cette région-là. Donc, on pourrait dire que c'était plutôt une sorte de circulaire, finalement. Et il y a aussi des similitudes entre l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Alors, on voit que, enfin, on aborde maintenant la ville d'Éphèse. Okay, ce que c'est la ville d'Éphèse dans le Nouveau Testament, c'était une ville qui était importante. Elle était la capitale en fait de la province romaine en Asie Mineure. Donc l'Asie Mineure, l'époque aujourd'hui, c'est la Turquie actuelle, la Turquie donc occidentale. Et il y avait aussi donc une forte communauté juive qui était présente là-bas à Éphèse, mais aussi une communauté romaine. Éphèse est aussi un centre culturel très riche, avec un grand théâtre qui pouvait accueillir entre 24 000 et 25 000 spectateurs. Elle était connue aussi et réputée pour avoir une très grande bibliothèque. Il y avait un grand centre de commerce donc, qui s'appelait l'Agora. Et on pense certainement que l'apôtre Paul, Priscille et Aquilas travaillaient. Hein. Vous savez que Paul, il était tisseur de tentes. Donc, il n'était pas à temps plein. Il travaillait. Donc ça en dit quelque chose quand même sur l'apôtre Paul. Éphèse, c'est aussi un centre religieux important et influent, notamment à cause du temple de Diane. Alors Diane pour les Romains et Artémis pour les Grecs, hein, parce qu'il y avait toute cette communauté-là qui vivait ensemble, donc c'était la même divinité. Et elle était donc, en tout cas, ce temple d'Artémis, ce temple de Diane était considéré comme une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Donc c'est pas rien quand même. Ensuite, eh bien, les habitants adoraient, venaient donc dans ce temple pour adorer donc la déesse qui était Diane ou Artémis, qui était en fait la fille de Zeus, et elle était vénérée comme une déesse de la chasse, comme protectrice aussi des jeunes vierges et déesse de fécondité. Et en fait, tout autour du temple, ben, il y avait des marchands qui profitaient justement et qui avaient un business qui rapportait beaucoup, parce que ben, les gens achetaient, etc., pour offrir toutes sortes de choses en l'honneur de cette déesse. On voit à un moment donné, donc on lit Actes 19 et 20, Paul va arriver à Éphèse. Et vous vous souvenez, quand Paul va arriver à Éphèse, il va rencontrer une poignée de chrétiens. Hein? Il va leur dire, mais est-ce que vous avez été baptisés, enfin, de quel baptême vous avez été baptisés? Ils vont dire, on a été baptisés du baptême de Jean. Et là, il va leur parler, mais est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? La Pentecôte venait juste de se répandre. Et là, ils vont dire, mais non, on ne connaît pas, c'est quoi ça? Il va imposer les mains, il va prier pour eux, et là, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte éphésienne. Voilà. Parce qu'après cela, il va y avoir plein de choses qui vont se passer parce que bah, vous imaginez bien que Paul, il est venu à Éphèse, c'est pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile dans une ville qui était vraiment imprégnée d'idolâtrie par rapport à ce temple et cette déesse. Entre 53 et 56, donc, Paul va rester à Éphèse, je pense 3 ans. Il va donc enseigner, apporter l'évangile, encourager, mais il va se retrouver aussi enseigner dans une école qui s'appelle l'école de Tyrannus. Plusieurs personnes vont venir travailler à Éphèse, qui vont venir épauler Paul dans son travail. Donc on sait bien qu'il y a Paul, il y a Aquilas, Apollos. Mais on voit aussi que Timothée va aussi se retrouver à venir travailler à Éphèse. Et on lit dans les épîtres que Paul va écrire à Timothée. À un moment donné, Timothée va en tout cas lui faire part, lui fait part, parce que c'est la réponse de Paul qui nous fait comprendre ça, mais en tout cas lui fait part que bah, c'est pas facile de travailler avec Éphèse parce que les chrétiens sont un peu plus âgés que moi. Timothée, il était jeune. Et c'est à ce moment-là que Paul va lui dire, vous connaissez, que personne ne méprise ta jeunesse. D'accord? Si tu as reçu cet appel, alors vas-y. Et on retrouve donc aussi Éphèse, donc notamment dans les Actes, dans l'Épître, mais un autre endroit aussi, on retrouve Éphèse dans la Bible. C'est où? Dans l'Apocalypse, exactement. C'est une des 7 églises à qui va écrire donc l'ange de l'Éternel. Et vous savez ce qu'on va reprocher à l'église d'Éphèse? D'avoir perdu ton premier amour. Donc c'est intéressant de savoir ça parce que ça nous montre la portée en fait de ce que déjà la réalité de ce que vivaient les Éphésiens, de ce que l'Évangile va apporter parce qu'ils vont être encouragés. Paul va passer 3 ans, mais ça va être 3 ans où il va tisser des liens très forts, au point que même au moment de partir d'Éphèse, en fait, il y a des chrétiens qui vont venir avec lui et en fait, ils vont se mettre à pleurer tellement ils ont partagé de bons moments avec eux. Donc, ils ont expérimenté quelque part l'amour de Dieu, mais on se rend compte que plus les années passaient, le temps passe, jusqu'à l'Apocalypse où Jean va avoir cette révélation, certes un peu compliquée à comprendre. Et là, l'ange de l'Éternel révèle que l'église d'Éphèse avait perdu son premier amour, parce que c'est un reproche qui est fait à cette église à ce moment-là. Donc ça nous met quand même eh bien, un regard assez haut pour nous montrer que bah, nous devons veiller quelque part à nourrir et à cultiver notre amour pour Dieu. C'est quelque chose qui se travaille chaque jour, tous les jours. On peut noter aussi un élément un peu historique. En 430, l'empereur Théodose II va vouloir régler un problème au sein du christianisme à cause de division. En fait, il va réunir à ce moment-là un concile œcuménique, et en fait, c'est le troisième sur 21 qui s'est déroulé, donc, et le troisième s'est déroulé à Éphèse. Il y en a eu 21, mais c'est le troisième qui s'est déroulé à Éphèse. Et en fait, l'un des problèmes de ce concile était destiné à régler une question portant sur la personne de Marie. En fait, certains, il y avait des personnes qui disaient, mais Marie, c'est la mère de Dieu. Et l'autre partie disait, mais non, la Marie, c'est la mère de Jésus, l'homme. Voilà, vous voyez le débat un peu? Ça va très loin, et donc il y a eu un conflit, etc., division entre ces deux parties. Et finalement, en fait, tout va bien être réglé pour dire que finalement, Marie, c'est la mère de Dieu. Et au point qu'aujourd'hui, eh bien, elle a revêtu quelque chose un peu de divin. Et je pense qu'on doit vraiment veiller à toujours conserver, je dirais, cette fraîcheur de la vérité de l'Évangile, de toujours aller eh bien, chercher la vérité au travers de la parole de Dieu, mais de se laisser aussi inspirer par le Saint-Esprit. Et ça, si vous voulez, par rapport à cette notion-là, ça m'a posé question. Je me suis dit, mais comment on fait pour garder une fraîcheur dans notre vie? Comment on fait pour garder une fraîcheur finalement spirituelle? Eh bien, tout simplement avec la communion avec Christ, en restant ancré dans Christ et dans le Saint-Esprit et le laisser, vous savez, laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Plus les années passent, plus les jours passent, les mois passent, et on peut à un moment donné être amené à conduire le Saint-Esprit plutôt que de le laisser nous conduire par lui. Alors, nous devons veiller vraiment à cela. Alors, j'ai noté ici quelques clés, quelques versets clés donc, dans cette épître, notamment dans ce chapitre 1. Alors, dans cette épître plutôt d'abord. Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, 8, Paul dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors, je vous propose donc qu'on survole. C'est un survol, hein, ce n'est pas vraiment une étude, mais plutôt un survol. Et je vous propose un plan donc par rapport au chapitre 1 que j'aimerais qu'on voie ce soir. Alors, il pourrait être appelé en Christ, parce qu'il est souvent mentionné, enfin, en tout cas, Paul le mentionne régulièrement, souvent dans son épître, en Christ. Et on peut donc diviser ce chapitre 1 en trois parties, très simples. Premièrement, donc, les salutations, les deux premiers versets. Ensuite, les promesses acquises en Christ, du verset 3 à 14. Et enfin, la dernière partie, la prière de l'intercession de Paul, parce que Paul termine par une prière en faveur des chrétiens d'Éphèse, les versets 15 à 23. Alors, on y va? Premièrement, donc, les salutations du verset 1 et 2. Voilà, Paul dit, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, deux mots vont nous intéresser. Je les ai surlignés, enfin, je les ai mis en gras. Saint et fidèle. Donc, Paul ici écrit sa lettre aux saints et aux fidèles d'Éphèse. Ces deux mots importants. Saints, ce sont ces personnes qui sont mises à part par Dieu pour son service. Et nous sommes en Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, déclaré saint pour lui et pour son service. Fidèles, ici, ce sont les personnes qui sont vivantes, qui quelque part vivent leur foi, qui obéissent à Christ. Et en fait, ce mot, il est aussi traduit dans certaines traductions enfin, il peut être traduit par digne de confiance, fiable. C'est-à-dire des personnes sur qui on peut vraiment, eh bien, s'appuyer et avoir une pleine confiance. Donc ici, Paul appelle les chrétiens d'Éphèse des saints, des mis à part pour servir Dieu et des fidèles, c'est-à-dire des personnes sur qui on peut s'appuyer, on peut compter sur eux pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais ces personnes, ce sont des gens qui s'appuient surtout sur Dieu pour accomplir son œuvre. Et lorsque Paul parle de la sainteté, c'est l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous sommes saints. Ça n'a rien à voir avec le fait aussi, vous savez, de prier les saints. Ceux qui ont eu une vie honorable, qui, bon, j'ai lu ça, mais je ne suis pas un expert dedans, mais déjà, elles sont mortes, ces personnes, et ensuite, elles ont accompli au moins un ou deux miracles. Donc, voilà, ce n'est pas dans cette pensée-là, en tout cas, que Paul écrit cela et parle de la sainteté, ou en tout cas des saints, mais c'est plutôt eh bien, de ceux qui sont vivants en Christ, qui ont mis leur foi en Christ et qui se sont laissés régénérer par l'œuvre du Saint-Esprit et qui sont devenus de nouvelles créatures. Ils marchent en Christ parce qu'ils aiment Christ et surtout ils ont cru que Christ est bien le Sauveur et le Fils de Dieu. En parlant de fidélité, Paul met ici en évidence la responsabilité des Éphésiens. Par l'œuvre de Dieu, il dit, vous êtes saints, c'est-à-dire à part pour servir Dieu, mais maintenant votre devoir ou votre responsabilité, c'est de marcher dans cette fidélité. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons vraiment cultiver avec attention, de marcher fidèlement avec Dieu. Finalement, c'est à nous d'être fidèles, de marcher fidèlement avec et pour Christ. C'est à nous, quelque part, de répondre, eh bien, à la sainteté de Dieu. Et comment on répond à la sainteté de Dieu? Eh bien, tout simplement en étant fidèle. Dans les petites choses comme dans les grandes, d'être fidèle dans notre communion, dans notre relation, dans notre vie de prière, dans notre vie de communion les uns avec les autres. On reste fidèle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances et peu importe les personnes. La fidélité, vous savez que Dieu en connaît un rayon quand même sur la fidélité. Enfin, je pense que il est fidèle. Peu importe ce qui se passe, que nous pouvons faire, Dieu reste fidèle. Il est toujours à nos côtés, il répond à nos besoins. Dieu incarne la fidélité. De tout temps, Dieu a été fidèle pour le peuple d'Israël. Et quand on lit l'Ancien Testament, on s'aperçoit que souvent, ils désobéissaient, mais Dieu a toujours été fidèle. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est encore fidèle. Lorsque nous péchons, lorsque nous fautons, il nous suffit de revenir avec sincérité de cœur, de nous repentir de tout, avec vraiment sincérité, et Dieu nous pardonne de nos péchés. On peut redémarrer. On peut repartir à zéro. Et j'aime bien ce qu'il est dit dans Lamentations chapitre 3, versets 21 et 23. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. Alors sommes-nous de ceux que Dieu peut avoir confiance? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous pour accomplir son œuvre? Sommes-nous de ceux qui sont fidèles dans notre service pour Dieu? Deuxièmement, on continue donc les promesses acquises en Christ. Ici, Paul va apporter des éléments précis comme la position spirituelle des Éphésiens en Christ, qui est d'ailleurs aussi la nôtre pour nous qui avons mis notre foi en Jésus. En Christ, Paul va le mentionner au moins 130 fois dans le Nouveau Testament. C'est quand même énorme. Et dans son épître particulièrement, l'épître d'Éphèse, il va le mentionner 36 fois. Donc, il y a quand même une notion très forte dans la pensée de Paul, dans cette dimension de notre position en Christ, dans notre union avec Christ, dans et avec Christ. En grec, le texte original de ce passage, Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Ici, on a quand même toute une... Voilà, des espaces, des virgules, etc. Mais lorsqu'on regarde le texte original, en fait, ces versets, ça constituait qu'un seul bloc. C'est une phrase. Et là, c'était compliqué. Alors, heureusement qu'on a quand même des théologiens, des exégètes qui se sont mis au travail et qui nous ont permis d'avoir une traduction quand même qui soit plus lisible. Ici, Paul commence avec « Béni soit le Dieu et Père ». Béni soit le Dieu et Père. Bénir Dieu. C'est reconnaître les bontés de Dieu. C'est aussi dire du bien de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu il est, et pour ceux qui ont mis eh bien leur foi en Jésus-Christ, eh bien il les bénit et donc et ça nous quelque part conforte dans notre position en Christ. Paul ici va aussi préciser donc le Père. Le Père, cela nous montre quoi? On sait que Dieu il est grand, qu'il est le créateur de la terre et l'univers. Qu'il est puissant. Et quelque part, ces notions-là peuvent nous laisser un sentiment un peu d'éloignement, comme quelque chose d'inaccessible, parce que c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement waouh que je ne sais pas s'il est proche. Et finalement, Paul va rajouter ici Père. Pourquoi? Parce que Dieu est un Père pour nous. Donc, ça veut dire qu'il y a cette relation, cette proximité que Dieu cherche avec chacun d'entre nous. Cela rejoint quelque part les paroles de Jésus sur le sermon sur la montagne. Lorsque Jésus va dire, lorsque vous priez, priez notre Père céleste. Et à travers Jésus-Christ, Dieu a voulu que nous ayons une relation intime et proche de lui. Et dans notre position en Christ, nous sommes donc réconciliés pour nous approcher avec confiance de notre Père céleste. Ensuite, Paul écrit, qui nous a bénis? Qui nous a bénis? Les bénédictions de Dieu sont pour chacun de nous. Et ici, les bénéficiaires, en fait, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes saints et fidèles. Ce sont les Éphésiens, mais c'est surtout nous. Et ici, si vous notez bien, le temps, il est utilisé au passé, qui nous a bénis. Pas qui nous bénit, mais qui nous a bénis. C'est déjà passé. Et c'est important de le relever parce que, eh bien, ça nous fait retourner, eh bien, à la croix de Golgotha. Vous savez, où Jésus va dire ces paroles, tout est accompli. Tout est accompli. Ce tout accompli, eh bien, c'est ce qui nous a bénis, c'est notre bénédiction. Et il n'y a donc rien à ajouter, il n'y a rien à mettre en plus, il n'y a rien. Non, tout est fait. Ce que Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Son œuvre à la croix est parfaite. Ce temps passé est là pour nous dire que nous sommes encore aujourd'hui bénéficiaires de la grâce de Dieu, de sa bonté manifestée au travers de la croix. La croix de Christ, elle est toujours là. Elle est toujours là et parfois, eh bien, nous n'avons pas conscience ou alors nous l'oublions. mais elle est toujours là. Et certains vont même la porter autour de leur cou sans vraiment comprendre ce qu'elle signifie. Et vous inquiétez pas, moi aussi, j'en porte des fois. Hein. Je juge personne, mais je pense qu'il est important de comprendre la signification de la croix. Avant d'être chrétien, vous savez, la croix, elle est devant nous. Parce que, avant d'être chrétien, on ne connaissait pas Christ, mais à partir du moment où on commence à rencontrer Jésus, qu'on a la foi qui vient, on expérimente des choses, la croix, plus en plus, ça s'approche. Et lorsque on devient chrétien, qu'on se convertit, la croix, elle est derrière nous, mais elle est toujours présente. Elle est toujours là, cette croix. Et en fait, elle est là pour nous rappeler quoi? Eh bien, tout simplement nous rappeler le sacrifice de Jésus, Fils de Dieu, celui qui s'est fait homme, qui a endossé le péché de l'humanité pour être sacrifié pour notre salut et pour le pardon de nos péchés. Ce temps passé est aussi là pour nous garantir que demain, Dieu sera là. Que Dieu sera encore celui qui va nous bénir. Parce que la Bible nous montre que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous devons toujours avoir recours à la croix, quoi qu'il arrive. Et il arrive que parfois nous pouvons, dans notre chemin, dans notre marche, nous pouvons dévier, sortir de l'itinéraire de Dieu, pour X raisons, faire un hors-piste, une erreur de trajectoire, mais pour revenir sur le bon chemin. Rappelons-nous de la croix de Jésus. Et si nous demeurons en Christ, nous continuons d'être bénis, alors demeurons fidèlement dans la présence de Dieu. Dieu est celui qui nous a bénis et qui nous bénira encore. Ensuite, j'ai noté donc bénédiction spirituelle. Ici, ça nous parle de la nature des bénédictions. Le mot bénédiction est souvent dans la Bible au pluriel, mais en grec, c'est un singulier. C'est étonnant quand même, c'est un singulier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule bénédiction, mais plutôt qu'il n'y a qu'une seule et unique bénédiction spirituelle qui englobe en fait tout le reste, toutes les autres bénédictions. Dans le tout accompli de Jésus à la croix, nous avons la guérison, le salut, le pardon de nos péchés. Nous avons la délivrance aussi sur l'œuvre de l'adversaire. Amen. Ensuite, l'étendue des bénédictions. Donc ici, Paul dit de toutes. Et ici, ça fait appel, ça fait penser à l'étendue des bénédictions. Dans ce texte, donc, de toutes évoque la plénitude. Dans la bénédiction spirituelle et céleste de Christ, il y a une plénitude et une diversité. Et Paul le dit clairement, en Christ, nous avons tout pleinement en lui. C'est ce qu'il va dire dans Colossiens chapitre 2, verset 10. Il dira, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Ensuite, dans ce passage, on voit les lieux célestes. Et ça, ça nous parle du lieu des bénédictions. Les bénédictions ne sont pas terrestres, mais elles sont célestes. Elles viennent de Dieu, ça vient de très loin, ça vient du ciel. Ce sont des bénédictions qui coulent du trône de Dieu, de sa demeure. Et vous savez, c'est la demeure de Dieu, c'est une source qui ne tarit jamais, qui ne s'arrête jamais. Et personne ne peut dire, mais Dieu a cessé de me bénir. Personne, pas un chrétien peut dire ça. Parce que Dieu continue de bénir, il y a cette source qui est là et qui continue de bénir. Il bénit, il a béni, il bénit et il bénira. Dans Hébreux, on trouve ce texte, approchez-vous du trône de Dieu, afin d'être secouru dans tous vos besoins et recevoir la bénédiction céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu sont d'abord spirituelles parce qu'elles vont répondre à nos besoins les plus profonds. Celles que on ne voit pas tout le temps. Ce sont des choses qui sont au fond de notre cœur. Et ce n'est pas que Dieu ne prend pas soin de nous par rapport à nos besoins terrestres. Bien sûr qu'il les connaît et qu'il pourvoit nos besoins quotidiens. Hein, d'ailleurs, la Bible nous dit, dans la prière que Jésus va donner, « Donne-nous notre pain quotidien. » Notre pain quotidien, c'est aussi valable physiquement pour manger, pour notre nourriture terrestre, mais c'est aussi notre nourriture spirituelle. Le pain céleste. Notre préoccupation première ne doit pas être les bénédictions, je dirais, terrestres, mais plutôt la bénédiction spirituelle. Et si nous focalisons notre attention sur la bénédiction spirituelle incarnée dans l'œuvre de Christ, toutes les autres bénédictions viendront par la suite. Et la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Et là, ça nous évoque quoi? Ça nous évoque évidemment le contexte du manger, du vêtement, des choses terrestres et des choses terrestres. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes effectivement physiquement sur cette terre, mais quelque part, nous sommes déjà spirituellement dans les lieux célestes. C'est fou, non? De se dire ça. C'est ce qui découle de notre position en Christ. Nous avons les pieds sur terre, mais le cœur et l'âme dans le ciel. Ensuite, Paul précise en Christ à la fin de son verset. Et ici, ça nous donne donc le moyen par lequel nous sommes bénis. Évidemment, c'est en Christ. Nous sommes incorporés en Christ. C'est lui le moyen de bénédiction. C'est lui le moyen dont nous avons besoin. C'est par la foi en Christ que nous sommes bénis. Et Jésus va dire, je suis la porte. Je suis la porte pour entrer en, Jésus est la porte, pardon, pour entrer en communion avec Dieu. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il conduit au Père et il est la vérité et il est la vie. Et j'aime bien, ça me fait penser à Marie-Valérie à me partager ça récemment. En fait, elle a sa maman, donc elle me parlait de sa maman qui vient régulièrement à l'église quand on lui dit de venir avec nous, mais on ne la force pas, on la laisse le choix de venir. Et en fait, elle discutait avec elle à un moment donné sur, sur le, sur la foi, sur prier, etc. Et notamment sur, sur la prière sur les saints. Et en fait, voilà, elle a les deux confessions catholiques. Et elle disait, voilà, il faut prier pour les saints, etc. Et Marie-Valérie lui a dit, oui, mais en fait, c'est qui guérit? C'est Jésus. D'accord? Et oui, voilà, parler de Marie, excusez-moi, j'ai perdu le fil, mais elle parlait de sa maman parlait de Marie, qui disait oui, il faut prier Marie, etc. Justement, on en parlait au début dans l'introduction. Et en fait, Marie-Valérie lui a dit oui, mais celui qui guérit, c'est qui? C'est Jésus. Elle dit oui, mais c'est pas Marie. Alors, il n'y a pas besoin de prier Marie pour être guéri, c'est Jésus. Et en fait, elle lui a fait comprendre, par un exemple tout simple, le docteur. Elle a dit, imagine, moi, je suis docteur. C'est moi qui va te soigner. Si toi, tu es malade, tu vas aller voir qui? Tu vas voir le docteur ou tu vas aller voir la maman du docteur? Et elle a dit, ben non, je vais aller voir le docteur. Voilà. Donc, quand on a besoin d'être guéri, quand on a besoin de quelque chose, quand on a besoin finalement, eh bien, de chercher quelque chose qui est hors du commun, qui est spirituel, qu'il n'y a que Dieu qui puisse agir, qu'il n'y a que Jésus qui peut faire quelque chose, il faut aller directement voir Jésus. Il n'y a pas besoin de passer par des intermédiaires. C'est Jésus. C'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est pas Marie. C'est Jésus qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. C'est Jésus. Et en Jésus, nous avons tout. Il est le moyen par lequel nous sommes bénis. Amen. Paul souligne ici la position de foi que doivent adopter les Éphésiens, mais que nous sommes aussi appelés à adopter. Et Paul n'est pas détaché de ce que vivent réellement les Éphésiens. Il sait ce qu'ils vivent. Il a vécu 3 ans. Il sait très bien le contexte, le quotidien qu'ils vivent avec voilà toute cette idolâtrie qui est présente. Et Paul apporte ici, il va aussi apporter un contraste entre eh bien les bénédictions qui découlent de l'œuvre de Christ, que nous pouvons acquérir simplement par la foi en Jésus. Et la réalité des Éphésiens, donc un contexte d'idolâtrie avec le temple de Diane d'Artémis et puis d'autres dieux aussi qui étaient adorés. Et en gros, ce lieu, c'était un dépôt de richesses et qui, en réalité, appauvrissait finalement toutes ces personnes spirituellement et matériellement. Mais toutes les bénédictions spirituelles, elles découlent de qui? De Christ. Elles sont en lui. Et il en vient ici, donc. Ah oui, bon, c'est pas grave. Paul va ensuite entrer dans une sorte de, je sais pas, j'ai pas le mot exact, mais en tout cas, il va nous montrer que les bénédictions vont provenir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a vraiment cette notion de Trinité qui est présente dans sa lettre. Donc, il va parler donc au verset 4 et 5, les premières bénédictions qui sont en relation avec Dieu. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Amen. Vous connaissez ce passage? Avant même que je naisse, tu me connaissais déjà. Avant la création, ici, ce que Paul nous révèle, c'est que Dieu, eh bien, nous avait déjà choisis pour le salut de Christ. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir, c'est ce qu'il a au fond de son cœur. c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils puissent être sauvés, pardon. C'est le choix de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est quelque part, peut-être on aurait pu dire ça, c'est le choix de l'amour et non le choix de la condamnation. Et vous savez, Jean 3,16, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, ce n'est pas nous qui avons choisi. Parce que des fois, on dit oui, j'ai choisi Dieu. Mais en fait, Dieu nous avait déjà choisi, avant même que la création se fasse. Il y avait déjà dans le cœur de Dieu, eh bien, ce désir que nous soyons à lui. Nous, on pourrait dire tout simplement, bien, j'ai accepté. J'ai accepté et j'ai accepté d'être choisi de Dieu pour lui appartenir au travers de Christ. La finalité de ce choix, c'est pour être saint. Un rappel comme au verset 1, quand Paul s'adresse aux Éphésiens. C'est pour être saint que Dieu nous a choisis. C'est pour être à part et être à son service. Nous devons être sans défaut, irréprochables. Alors, saint, voilà, et sans défaut. Et en fait, il précise ici, sans défaut devant lui. Les défauts, on en a, hein, n'est-ce pas? C'est pas facile tous les jours. Mais Dieu fait grâce. C'est pas une question, c'est pas une raison de rester dedans. Dieu ne nous a pas choisis donc parce que nous étions sans défaut. Il aurait pu, après tout, se dire bon, je veux un peuple saint, ben, je veux qu'il soit parfait. Je ne veux pas qu'il soit voilà, entaché de choses mauvaises, qu'il soit rempli de défauts. Mais non. Dieu nous a choisis alors que nous étions eh bien, pécheurs. Mais parce que lui, il avait la solution pour nous rendre saints, tout simplement. C'est Jésus-Christ. Il nous a choisis pour lui, pour que nous puissions faire les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est-à-dire faire le bien et faire le bien que Dieu considère comme bien. Parce que nous, on considère des choses qui sont bien que Dieu ne considère pas forcément, mais accomplir les œuvres que Dieu a préparées, c'est parce que lui, il a considéré que ces œuvres-là sont bien. Et nous devons entrer pleinement dans cette dimension-là, de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous, on veut parfois faire plein de bonnes choses, faire plein de bonnes œuvres, de bonnes choses, et c'est pas mauvais, mais ce n'est pas toujours ce que Dieu veut. Ensuite, il dit, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ici, le mot important à retenir, c'est prédestiné. C'est vrai que en regardant un peu les commentaires, ça a fait couler beaucoup d'encre. Prédestiné, prédestination, etc. Ça a fait beaucoup parler les théologiens. Mais en fait, ça veut tout simplement dire destiné à l'avance. Donc Dieu nous a choisis, okay? Il nous a destinés à entrer dans une direction dans son amour, comme Paul le dit, dans son amour, il nous a prédestinés. C'est-à-dire une communion avec lui à être ses enfants adoptifs. Et en fait, finalement, c'est quoi? Eh bien, c'est le but de notre destinée. Hein, on cherche beaucoup des fois ma destinée, c'est quoi ma destinée, c'est quoi les pensées de ma destinée, les secrets de ma destinée. Ben voilà, il suffit juste de lire le texte et notre destinée, elle est là. Dieu nous avait prédestinés à ce que nous soyons eh bien, choisis par lui pour être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. L'adoption a un but, c'est célébrer la gloire de sa grâce. Paul dira dans Romains chapitre 8 au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Cette adoption fait de nous des fils et des filles de Dieu, mais aussi des héritiers avec Christ. C'est la volonté de Dieu. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu par adoption. Et cela découle encore une fois de notre position en Christ. Chose impossible sans l'œuvre de la croix, sans l'œuvre de Christ. Ensuite, Paul poursuit, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Et là, la bénédiction, elle entre en relation avec qui? Avec Jésus. Avant, c'était Dieu. Maintenant, on rentre dans des bénédictions en relation avec Jésus le Fils, par son sang. C'est par le sang, nous sommes, eh bien, rachetés, Paul le dit. Rachetés, ou d'autres traductions parlent de rédemption. Et à l'époque, vous savez que le fait de payer une rançon, de payer quelque chose, eh bien, pour libérer un prisonnier de guerre ou un esclave, c'est... Oui, c'est ça. C'est à l'époque de Paul, c'était cette notion-là, de payer un rachat, de payer une rançon pour libérer un prisonnier de guerre ou un esclave, pardon. Et le prix de notre rachat ou de notre rédemption, il se trouve en quoi? dans le sang de Christ. C'est lui qui nous a rachetés. C'est par le sang précieux de Christ que nous sommes libérés du pouvoir du péché qui nous tenait prisonniers et esclaves. Et ça, vous savez, c'est une grâce imméritée, une faveur imméritée. Cette grâce divine découle de la croix. On poursuit donc. Paul ensuite va... Non, voilà. Ensuite, autre bénédiction à noter. Et Paul va ici développer trois choses. Donc, des conséquences qui découlent de ce prix payé par le sang de Christ. Donc, par le sang de Christ, nous avons été rachetés, nous avons été pardonnés. C'est le pardon. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et si notre vie, parfois, peut être un peu défectueuse, comme une ardoise avec plein de traits où ces traits représentent des péchés, des choses mauvaises, en Christ, cette ardoise, elle est remise à zéro. Elle est complètement effacée. En Christ, nous pouvons repartir de plus belle. Le pardon de nos péchés n'est possible que si nous sommes en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, nous ne sommes pas pardonnés, même si Dieu nous dit qu'il pardonne le monde. Mais en Christ, nous sommes réellement pardonnés de nos péchés. Et Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Ensuite, Paul nous parle de réconciliation. Plus loin, au verset 9, il nous dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. Notre position en Christ nous offre le moyen de pouvoir renouer cette relation avec Dieu. Alors que le péché nous empêchait justement d'entrer en relation, d'entrer en communion avec Dieu, lorsque Jésus s'est sacrifié sur la croix, ce sacrifice-là nous permet de nous connecter avec notre Père céleste. Ici, Paul dédie de tout réunir sous l'autorité du Messie. Vous savez, ça fait penser, lorsque Jésus était sur la croix et qu'il va mourir, il y a quelque chose qui va se passer dans le temple. Il y a le rideau qui va se déchirer, qui va se fondre en deux. La présence de Dieu est maintenant accessible. Alors qu'elle était véritablement bloquée par ce grand rideau, lorsque Jésus est mort, ce rideau est déchiré. La présence de Dieu est maintenant possible pour celui qui met sa foi en Christ et parce qu'il est pardonné de ses péchés. Ensuite, ça nous parle aussi d'héritage. Lorsque Paul dit au verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. » Les bénédictions en relation avec le Fils de Dieu, ici, ça nous parle d'héritage. En Christ, nous devenons héritiers du royaume de Dieu. Notre héritage n'est pas matériel, mais il est spirituel. Certaines personnes, j'ai noté ça, vont passer peut-être toute leur vie à accumuler, à mettre toute leur énergie sur terre pour constituer un héritage, pour différentes raisons, pour différentes personnes, peut-être même pour elles-mêmes ou bien pour leurs descendants. Mais finalement, passer son temps et toute sa vie à faire ça, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne les emmènera pas au ciel, ces choses-là. Cependant, ce que nous pouvons constituer, ce que nous pouvons cultiver et embellir lors de notre passage sur terre, c'est notre foi et notre fidélité à Dieu. Ça, oui, on emportera ça dans le ciel. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage dans certains choix de nos vies. Bien entendu, il faut veiller à ce que nous ayons la provision pour certaines choses. Mais de là à focaliser toute notre vie, toute notre énergie dessus, je pense que ce n'est pas le bon moyen. Vous savez, la foi aussi, elle n'est pas visible. Elle n'est pas matérielle. On ne peut pas mettre la foi dans une main. Ça ne se voit pas. Par contre, la foi, on la voit comment? Parce qu'elle est démontrée par des actes de foi, par des pas de foi. Et la foi, elle ne va pas disparaître dans le ciel. Elle sera là. Et quelque part, cet héritage spirituel, c'est la suite logique des deux précédentes. C'est-à-dire le pardon, et la réconciliation. Pour prétendre à l'héritage céleste, il nous faut être pardonné de nos péchés. Autrement dit, être présentable, saint et sans défaut. Et il nous faut aussi être réconcilié avec celui qui donne cet héritage céleste. Autrement dit, il nous faut être revêtus de Christ et vivre pleinement notre position en Christ. On poursuit et là, Paul arrive donc sur une bénédiction qui est en relation avec le Saint-Esprit. Bon, pardonnez-moi, je n'ai pas mis la bonne police, mais je vais vous lire le passage. Donc, verset 13, il nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » La place que donne Paul au Saint-Esprit est hyper importante. Quand on lit ses épîtres, Romains, etc., Colossiens, il y a plus de 59 références. Enfin, dans son épître aux Éphésiens, on a plus de 59 références, mais au-delà de ça, Paul en parle régulièrement du Saint-Esprit. Ici, marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous scelle en Christ. Dieu marque notre appartenance à lui sur notre cœur par l'empreinte du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, vous savez, Jésus l'avait promis, il l'a dit à ses disciples. Il vaut mieux pour moi que je m'en aille, que je vous envoie donc le Saint-Esprit. Et à l'époque de Paul, le sceau ou le fait d'être marqué, c'était une manière visible de propriété, mais aussi d'authenticité. De qui était le propriétaire? Donc je parle d'esclaves, je parle d'objets, etc. Et nous ne sommes plus esclaves de ce monde. J'aime à dire aussi que notre propriétaire, c'est Dieu. Ce n'est pas ce monde. Ce n'est plus ce monde. C'est Dieu parce qu'il nous a rachetés par le sang de Christ, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il nous a réconciliés et il nous a fait héritiers de son royaume. Dieu a donc scellé cela en mettant le Saint-Esprit dans nos vies. Et lorsque nous sommes scellés, marqués de cette empreinte du Saint-Esprit, nous savons que nous appartenons à Christ et que nous sommes revêtus de son autorité. Pour être scellé et marqué par le Saint-Esprit, il y a deux choses qui sont nécessaires. Il faut d'abord avoir entendu l'Évangile, avoir écouté, pris le temps de l'entendre, mais il faut aussi y croire. Croire à cet Évangile, croire à cet Évangile qui nous parle d'un Sauveur, qui a revêtu l'humanité, qui s'est revêtu comme un homme, qui a vécu ce que nous avons pu vivre en tant qu'être humain, mais qui était à la fois Dieu, qui s'est sacrifié sur cette croix, qui est mort, mais qui est ressuscité. Et nous avons besoin de croire en cela. Le Saint-Esprit, c'est quelque part, quand Paul parle au verset 13, moi je ne l'ai pas mis, ça ne se voit pas, pardonnez-moi. Alors, si vous avez vos Bibles au verset 14, Paul dit « Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que, vous avez pas la suite, de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Le gage, c'est quoi? C'est un paiement anticipé. C'est une sorte d'acompte. En fait, le Saint-Esprit, c'est un acompte. Alors, je ne minimise pas le Saint-Esprit, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a d'autres choses dans le ciel qui nous attendent. Ça veut dire que quand on a le Saint-Esprit, c'est un avant-goût, finalement, de ce qui nous attend dans le ciel. C'est une petite portion de ce que nous pouvons vivre de Dieu dans notre petit corps terrestre. Et finalement, il y a quelque chose, un héritage encore plus grand qui nous attend dans le ciel. Le Saint-Esprit est une garantie que nous recevrons la totalité de notre héritage céleste. C'est d'ailleurs même mieux que le cadeau de Noël. En évoquant notre héritage céleste, Paul nous rappelle et rappelle aussi aux Éphésiens que les bénédictions reçues et celles en réserve dans le ciel doivent célébrer sa gloire. C'est ce qu'il dit à la fin du verset 14, célébrer sa gloire. Et cela vient quelque part donner un sens et une raison d'être à notre vie. Conformément à la bienveillance, volonté de Dieu, nous avons cru, nous avons mis notre foi en Jésus, en Christ. Et nous sommes entrés dans la famille de Dieu en tant qu'enfants adoptifs. Nous sommes donc appelés à vivre en célébrant la gloire de Dieu. Amen. Dans le monde que nous vivons, l'homme sans Dieu veut vivre pour sa propre gloire. Mais celui qui se positionne en Christ, qui revêt Christ, qui croit en lui, qui vit selon la volonté de Dieu, agit et fait tout pour la gloire de son Dieu. Amen. Je vais arrêter là, parce que là, il va nous rester donc les versets 17 et puis jusqu'à la fin. Ok, merci, je prie et puis on se quitte. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Et je te prie, Père éternel, encore de nous amener à comprendre cette réalité qui est là devant nous, que nous pouvons vivre dès maintenant, c'est d'être en toi, Jésus-Christ. Par la foi en toi, nous pouvons revêtir ta personne être, Seigneur, conscient du pardon de nos péchés, de cette vie éternelle que tu nous offres au travers de la croix, mais aussi de cet héritage qui nous attend dans le ciel. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, vraiment marcher, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu marqué par ton esprit. Seigneur, nous voulons reconnaître encore que tu es notre Dieu, que tu es celui qui, oui, a béni dans le passé, qui bénit encore dans le présent et qui bénira dans le futur. Et nous voulons nous appuyer sur toi parce que tu ne changes pas. Tu es le rocher éternel sur qui nous pouvons compter. Tu es le Dieu de la provision, le Dieu, Seigneur, qui nous aide à traverser les tempêtes, les moments difficiles que nous pouvons traverser. Et je te remercie parce que tu nous fais grâce. Tu nous fais, Seigneur, cette grâce encore de pouvoir bénéficier de ton amour et de ta fidélité. Alors amène-nous, Seigneur mon Dieu, en retour, oui, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la fidélité avec toi, et à être, Seigneur mon Dieu, ces vecteurs, ces canaux de bénédiction dans ce monde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.